Les par actualités. Nous sommes aujourd'hui le 3 octobre 2016 et c'est Clotilde Saye au micro de Canal M pour vous présenter les paractualités, les titres aujourd'hui, du moins quelques-uns des titres du jour. Service offert par l'État québécois, un déni de service, dit la protectrice du citoyen. L'entrevue du jour avec Sarah Limoges, conseillère en accessibilité universelle chez Altergo. Les paractualités au Québec, le salon de l'emploi de Tracadie qui fait des heureux et un salon des et Sœur Angèle, qui font également des heureux. L'organisme du jour, Annick Larose, directrice de l'Association du Québec pour l'intégration sociale, autrement dit l'AQUIS. Il y aura aussi des paractualités nationales, et notamment celle-ci. Six évêques de l'Ouest canadien soulèvent l'indignation en proposant de ne pas offrir de funérailles religieuses aux personnes qui font appel à l'aide médicale à mourir. Alors commençons par ceci, la protectrice du citoyen du Québec, Madame Raymond de Saint-Germain, ne passe pas par quatre chemins pour dénoncer les manquements à la qualité des services offerts par l'État québécois, allant jusqu'à parler d'un déni de service, rien de moins. Elle craint qu'un écart plus grand ne se creuse entre les demandes des citoyens et le résultat obtenu. Au dire de Raymond de Saint-Germain, dans son rapport annuel de 167 pages, malgré leur bonne volonté, les employés du secteur publics sont impuissants dans le système actuel. Elle appelle en conséquence à intensifier les efforts pour réduire les lourdeurs administratives plutôt que les services octroyés. Les problèmes signalés, longs délais et nombreux reports, intensité insuffisante de la prestation de services, interprétation rigide des lois, règlements et programmes qui mènent à l'exclusion des citoyens. Alors le premier ministre se défend, le premier ministre Philippe Couillard a exprimé son désaccord face au constat du protecteur du citoyen, indiquant que l'atteinte de l'équilibre budgétaire donne maintenant plus de capacité d'agir au gouvernement. Les discours sur les personnes vulnérables, les discours sur la solidarité avec des finances publiques déséquilibrées et un endettement chronique, a dit Monsieur Couillard, ce n'est que du vent. Je vous précise que demain à l'émission Accès libre à 12h45, Benoît Racette va justement s'entretenir avec Raymonde Saint-Germain, la protectrice du citoyen du Québec. Une heure de plus pour traiter l'AVC. Jusqu'à maintenant, il était généralement établi qu'un patient avait un maximum de 6 heures pour bénéficier d'un traitement efficace. Eh bien, les présents travaux montrent que les dommages au cerveau peuvent encore être diminués jusqu'à 7 heures après l'accident. Faut-il rappeler que cet AVC, l'accident vasculaire cérébral, est la conséquence du manque d'apport d'oxygène dans une partie du cerveau. Le docteur Michael Hill précise « Ce qui est important pour nous, c'est le fait que nous pouvons étendre la fenêtre d'intervention chez certains patients. » Et c'est un docteur qui est installé en Alberta. Il dit « C'est important, d'ailleurs, dans notre province, parce que nous devons intervenir sur de grandes distances géographiques. » Environ 315 000 Canadiens vivent avec les séquelles d'un AVC et annuellement, environ 13 000 personnes succombent à un AVC au pays. C'est le mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques de Montréal avec une programmation à ne pas manquer. Et à ce sujet, j'ai au bout du fil Sarah Limoges, conseillère accessibilité universelle en loisirs chez Altergo. Bonjour Madame Limoges.
Oui, bonjour.
Alors Madame Limoges, oui, c'est le mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques de Montréal et on sait qu'il y a une programmation à ne pas manquer. Quelles sont justement les activités qui chaque année font le succès de ce mois de l'accessibilité dans les bibliothèques?
On a la chance d'avoir une belle programmation avec, entre autres, des activités qui reviennent à chaque année et des nouvelles activités. Dans nos activités qui reviennent à chaque année puis qui sont très populaires, il y a entre autres les heures du compte d'Altergo. Donc, des personnes qui ont une limitation fonctionnelle qui vont rencontrer des groupes d'enfants et leur raconter des contes. Mmh. Il y a également le regroupement pour la trisomie 21 qui fait également des heures du conte. Il y a okay. souvent aussi des conférences ou bien des ateliers d'art, un peu comme le SUVA fait avec des ateliers de peinture.
OK. Et tout ça se passe donc dans les bibliothèques, évidemment.
Oui.
Et
oui.
C'est toutes les bibliothèques sont concernées, Madame Limoges, hein?
La majorité des bibliothèques participent au mois de l'accessibilité universelle. Mm-hmm. On leur soumet une programmation.
Une programmation.
Tout à fait. Et ils vont choisir parmi les activités qui sont disponibles. Mm-hmm. Des activités qui leur plaisent et
bien
ils
sûr.
Vont les mettre dans leur programmation à eux pour tout le
D'accord.
mois d'octobre.
Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que les gens, par exemple, qui sont habitués à se présenter, est-ce qu'ils vont pouvoir profiter de quelques nouvelles activités?
Oui, bien sûr. Entre autres, il y a eu des œuvres collectives qui ont été faites avec l'organisme Sans oublier le sourire. C'est une nouvelle activité.
Sans oublier le sourire.
Sans oublier le sourire, qui est un organisme membre d'Altergo.
OK.
Et cette œuvre collective-là consiste à fabriquer des masques avec des jeunes et des personnes qui ont aussi une limitation fonctionnelle pour les sensibiliser à la déficience intellectuelle.
Oui.
Et ensuite, c'est ouvert d'un groupe de discussion. Et mm-hmm. cette année, on a aussi la chance d'avoir l'Association du Québec pour les enfants avec un problème auditif
oui.
qui a fait venir un clown qui est sourd, donc qui va faire le langage des
oui.
signes.
OK. Ah, ça, c'est une très, très bonne idée. Alors, j'imagine qu'il va se promener de bibliothèque en bibliothèque.
C'est ce qu'on souhaite. bien sûr, c'est toujours les bibliothèques qui vont choisir leur activité.
Oui, c'est ça, parce que donc, c'est elles qui choisissent. Alors, bon, évidemment, le clown, il sera peut-être accueilli quelque part, mais mm-hmm. pas à d'autres. Donc, on parle d'exposition de peinture.
Oui.
On parle de l'heure du conte, on oui. parle éventuellement du clown. Au niveau de la lecture en tant que telle, à part l'heure du conte, est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont présentées?
Assurément. Il y a beaucoup d'activités qui tournent autour des animaux qui sont très, très populaires avec les enfants.
Ah oui?
Donc, oui, comme des zoothérapeutes qui vont rencontrer les enfants. Il y a aussi la Fondation Mira qui revient à chaque année pour venir parler des chiens d'assistance et des chiens guides.
Oui.
Il y a aussi beaucoup de conférences qui vont avoir lieu.
Des conférences sur quoi, par exemple?
Par exemple, je pourrais vous donner l'exemple de M. Michel Nadeau, qui va venir parler oui. de la déficience auditive
D'accord.
Dans les bibliothèques. Mm-hmm. Et également, il va avoir une conférence, un témoignage d'une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme, qui va venir parler de sa réalité.
Ah, excellent.
Oui.
Et puis, est-ce qu'il y a des objectifs en termes de fréquentation? Est-ce qu'on voit les chiffres monter à tous les ans? Ou...
C'est difficilement quantifiable
okay.
parce que plusieurs limitations fonctionnelles ne se voient pas. Donc, on ne peut pas établir un chiffre en tant que tel. Par mm-hmm. contre, à Altergo, comme on est en contact avec plus d'une centaine d'organisations membres, on peut voir leur satisfaction et leur fréquentation lors du mois de la U. Mais bien sûr, on vise aussi beaucoup la participation des personnes qui ont une limitation fonctionnelle en bibliothèque, mais également des organismes dont la clientèle a une limitation fonctionnelle.
Oui, 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 oui. Alors, j'imagine que parler d'heures d'activité, c'est difficile parce que ça dépend encore là de chaque bibliothèque, c'est bien ça, mais j'imagine qu'en fin de semaine, il doit y en avoir plus dans les samedis, les dimanches ou en fin de journée, comment ça se passe?
Généralement, ce qu'on a tendance à voir, c'est que bien sûr, les samedis et les dimanches,
oui, c'est
le grand public, la famille.
Mm-hmm.
Lors de la semaine, il y a plusieurs organismes ou des groupes scolaires aussi qui peuvent
ah, oui.
Oui,
en profiter.
En profiter, tout à fait.
Ah, ben c'est fantastique. Alors, je rappelle que c'est le mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques de Montréal. Madame Limoges, hein, vous êtes donc conseillère en accessibilité universelle, plus précisément en loisirs chez Altergo. Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez voulu faire savoir à nos auditeurs avant qu'on se dise au revoir?
C'est un mois qui revient à chaque année. C'est vraiment une belle occasion pour tout le monde d'avoir des activités gratuites.
Oui.
Et de pouvoir se sensibiliser également.
Eh bien, bravo. Bravo à vous. Et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Madame Sarah Limoges.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Bonjour. À bientôt. Au revoir. En région, les travailleurs souffrant d'un handicap, oui, c'est une main-d'œuvre sous-estimée. C'est quelque chose dont nous parlons souvent ici sur les ondes de Canal M. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que jeudi dernier, à Tracadie, se déroulait le deuxième salon de l'emploi pour personnes ayant un handicap. Une occasion pour nous de comprendre, témoignage à l'appui, écrit Vincent Pichard dans un journal tracadien, les défis auxquels sont confrontés les travailleurs et les employeurs. Par exemple, Céline Como, c'est une femme qui travaille présentement à temps partiel. Elle est sur appel. Elle est atteinte de troubles de santé mentale. Dans le milieu professionnel, elle le constate, souffrir d'un handicap est encore tabou. Les recruteurs se demandent si je vais être fiable et solide, raconte-t-elle. À cause de ma maladie, je n'ai pas travaillé pendant de longues périodes. Il y a des trous dans mon CV. Alors participer à ce deuxième salon lui permettait de contourner ce désagrément. Céline Como, qui ne veut pas être cantonnée à son handicap, elle sait qu'elle peut apporter beaucoup à une entreprise. D'expérience, Annie Chiasson-Doirion observe que les salariés avec un handicap constituent de très, très bons employés. Le premier salon mis en place l'année dernière, à la même époque, avait abouti à l'embauche, rappelons-le, d'une douzaine de personnes. J'imagine que d'ici quelques jours ou quelques semaines, nous en saurons un petit peu plus. À savoir si, encore une fois, cette année, ce salon de l'emploi a rempli ses promesses. En région encore, à Trois-Rivières, pas moins de 29 courageux ont descendu face vers le sol les 13 étages du mur extérieur de l'hôtel Delta à Trois-Rivières, samedi à l'occasion de la troisième édition de l'événement Décalade au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Leurs efforts ont permis d'amasser plus de 28 500 $ pour lutter contre cette maladie et la campagne de financement se poursuit jusqu'au 31 octobre prochain. Autrement dit, l'objectif de 30 000 $ devrait être dépassé. Il y a Denis Baribeau, qui est un ancien inspecteur de structure et qui est quelqu'un qui connaît bien les hauteurs. Il est atteint lui-même par la sclérose en plaques et il n'a pas hésité à descendre plusieurs fois le mur extérieur de l'hôtel Delta. Pour M. Baribeau, ce geste est très symbolique et représente bien le quotidien d'une personne atteinte par la sclérose en plaques. « Tous les jours, je suis toujours assis sur le bord du toit. Je sais que je vais descendre, mais je ne sais pas à quelle vitesse. Quand tu as la sclérose en plaques, tu as toujours les pieds dans le vide », a-t-il avoué. Certaines personnes, comme Danielle Bibeau, elle-même atteinte par cette maladie, et son fils, Louis-Raphaël Gervais, ont réalisé ce défi à la mémoire d'un proche emporté par la maladie. Ces deux participants avaient plusieurs pensées samedi pour Éric Gervais, un conjoint et un père emporté en juin dernier par la sclérose en plaques. Il nous donne des ailes à préciser. Madame Bibeau avance sa descente. Il y avait aussi des personnalités publiques connues qui se sont livrées à cet exercice pour le moins périlleux, notamment un boxeur, Simone Keane, et puis le député fédéral de Trois-Rivières, Robert Aubin, qui a déclaré « J'ai l'impression que je suis encore en train de flotter ». Je ne peux pas sentir dans mon corps ce que les personnes atteintes de sclérose en plaques vivent au quotidien, mais j'ai senti la faiblesse dans les jambes et le peu de contrôle que j'avais sur mes jambes sur la paroi de l'hôtel. Et ça me laisse envisager ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Et puis encore en région, rapidement, si les personnes avec une déficience intellectuelle ont accès à de plus en plus de services, encore bien peu de programmes existent pour les préparer à leurs vieux jours. L'Association pour la déficience intellectuelle de la vallée du Richelieu, l'Averdi, s'est penchée sur la question. L'Averdi offre depuis peu des services spécialisés de maintien des acquis pour des membres plus âgés dans les locaux du Centre des loisirs à Belœil. L'offre de services est directement adaptée à la condition vieillissante des usagers. Notamment dans les locaux de la Verdi, les aînés peuvent discuter de sujets qui les préoccupent, entourés de leurs amis, sortir et rencontrer des gens. Une vie active qui permet de retarder le placement, croit Madame Savard, Joanne Savard, directrice de la Verdi, qui dit « En déficience intellectuelle, il faut leur apprendre à vieillir avec leur corps parce qu'ils ne se voient pas vieillir. Ils sont encore jeunes dans leur tête, donc ils veulent aller trop vite. Et soudain, et souvent, ils se font des blessures. » Et puisque je parle d'aînés, eh bien, juste en quelques mots, le salon des aînés et proches aidants avait lieu à Rivière-du-Loup. Et nul autre que Sœur Angèle y a donné une conférence. La conférence de la célèbre Sœur Angèle a porté sur le respect des aînés et les proches aidants. Et pendant près d'une heure, elle a fait rire les spectateurs en expliquant son parcours. À 78 ans, Sœur Angèle trouve important de pouvoir parler aux aînés et il s'agit pour elle d'une façon de briser la solitude que vivent certains. Et maintenant, vous le savez, hein, depuis quelques semaines que l'émission Les Paractualités a commencé, nous accueillons tous les jours du lundi au jeudi un organisme. Et aujourd'hui, je suis contente parce qu'elle est en studio. Bonjour Madame Larose.
Bonjour.
Donc, vous êtes Annick Larose. Vous êtes directrice de l'Association du Québec pour l'intégration sociale. On dit l'AQUIS.
C'est ça.
J'imagine.
C'est ça.
Et vous venez nous parler, Madame Larose, de ces journées de sensibilisation et de témoignage qui s'appellent « Quand je ne veux pas, je dis non ». Il est question, bien sûr, d'abus et d'intimidation concernant des personnes souffrant d'une déficience intellectuelle.
Tout à fait. C'est le mandat de l'AQUIS de représenter ces personnes. On est une association, on est un regroupement d'associations.
Oui.
On a un mandat national. Donc, c'est une question qui nous interpelle énormément. Nous avions déjà tenu l'année passée une journée à Montréal sur le même sujet, avec la même thématique, quand je ne veux pas, je dis non. Justement, pour lever le voile, c'est un sujet qui est quand même assez tabou, mais on a des statistiques très troublantes de personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Donc, donc des études, une étude notamment qui est sortie en 2013, qui mentionne que 4 femmes sur 5 vivront, qui ont une déficience intellectuelle, vivront dans leur vie une situation d'abus sexuel ou de violence. Et 1 homme sur 3 qui a une déficience intellectuelle. Donc, dans la population générale, on parle d'une 1 femme sur 3 qui va vivre une situation de violence. C'est des chiffres qui sont très énormes et qui font frémir et qu'on doit, on doit s'intéresser comme parent. Moi, je suis également parent d'une jeune femme qui a une déficience intellectuelle. C'est un dossier qui est très important et qui nous inquiète énormément tous les jours. Comment outiller la personne? Comment s'assurer qu'elle puisse avoir un filet? C'est
oui,
sûr que
oui.
C'est toujours le mariage très délicat entre promouvoir l'autonomie hein,
oui,
des personnes qui ont une
oui.
déficience intellectuelle, en même temps s'assurer qu'il y a toujours un filet, et surtout dans le contexte dans lequel on vit présentement, où il y a beaucoup de coupures de services, on en entend parler, la protectrice encore en parlait la semaine passée, c'est quelque chose qu'on voit, nous, quotidiennement, qu'on entend de nos associations membres, donc... Je pense que c'est un terreau qui est très fertile à ce moment-là,
oh là là,
avec
oui.
tous les roulements personnels, avec les coupures. Donc, c'est une forme... c'est de pas faire part... On veut pas faire part à tout le monde, hein. C'est pas la question, mais en même temps...
C'est
notre rôle d'en parler, et ce n'est pas en n'en parlant pas qu'on va régler la situation. Donc, c'est vraiment de permettre, parce que ces journées-là sont organisées pour les familles, pour les intervenants, mais également, je vous dirais, pour les personnes elles-mêmes qui vivent avec une déficience intellectuelle, pour leur permettre justement d'avoir une voix. Et il y a toujours un atelier spécifiquement conçu pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle.
Okay.
Et on s'assure d'avoir sur place des gens qui vont pouvoir recueillir, parce que l'année passée, là, on a eu des gens qui ont révélé des choses de ce qu'ils avaient vécu.
On est là sur le mode sensibilisation, on est sur le mode témoignage, on est sur le mode solution aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Bien, c'est sûr qu'à l'issue de la première journée, ce qui nous a paru très clair, c'était que les personnes qui ont une déficience intellectuelle sont très peu éduquées au niveau de leur sexualité. Donc, déjà, s'ils pouvaient avoir un effort fait en ce sens-là, qu'à l'école, très tôt, et ils sont scolarisés jusqu'à l'âge de 21 ans, que ces personnes-là puissent avoir accès à une éducation sexuelle et que ça soit pas optionnel, parce que très souvent on se dit ah ben ils comprennent pas, ils vont pouvoir, c'est sûr qu'il y a des programmes qui existent qui sont adaptés pour la déficience intellectuelle. Et à notre avis, ça devrait être un incontournable. Donc, au départ, savoir qu'est-ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. C'est sûr que c'est des personnes qui sont vulnérables dues aussi au fait qu'elles veulent être acceptées, elles veulent être très...
Et elles sont souvent câlines. On pense, par exemple, à ces enfants qui sont trisomiques.
Oui.
Combien de fois, ce sont des enfants qui vous collent, littéralement.
Oui. C'est sûr qu'il y a tout un apprentissage à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire. Bon, très rapidement, un enfant qui est trisomique, on doit lui apprendre que quand on va à la pharmacie, on fait pas le câlin à la dame qu'on connaît pas. Donc ça, c'est sûr que ça fait partie des apprentissages comme parents, on doit faire. Mais au-delà de ça, cette vulnérabilité vient du fait aussi qu'elle veut se faire accepter. Très souvent, l'étude qu'on mentionne, là, qui a été faite par l'Institut universitaire de la Trois-Rivières, mentionne que ces personnes-là veulent se faire accepter et n'ont pas nécessairement tous les réflexes là, pour pouvoir voir est-ce que c'est quelque chose qu'on accepte, quelque chose qu'on n'accepte pas.
C'est ça.
Dans 90 % des cas, ce sont des personnes qui sont connues. Donc, l'agresseur est connu, mais ça, c'est dans la population générale aussi.
Là, on parle environnement.
Oui, c'est rarement dans la ruelle, dans un coin sombre. Là. Donc, c'est souvent les gens qui dispensent des services, qui sont dans la famille, qui sont dans l'environnement immédiat. Donc, il faut outiller et la première chose à faire, c'est vraiment d'éduquer.
Alors, je voudrais qu'on rappelle tout de suite, quand je ne veux pas, je dis non, le 21 octobre à Rimouski.
On le fait à Rimouski à la demande de nos associations qui voulaient justement dans les régions à Rimouski le 21 octobre.
D'accord.
Et le 25 novembre à Drummondville.
OK.
Donc, ils sont faits en collaboration avec nos associations membres de ces régions-là.
Bon, pour savoir exactement où ça se passe, à quelle heure et tout ça, j'imagine qu'on peut faire akis.com
tout
bêtement.
Oui, ou déficienceintellectuelle.org.
D'accord.
Encore plus simple. Org, donc, on peut avoir tous les détails. Les gens qui sont dans ces régions-là, avec grand plaisir, peuvent assister à ces journées-là.
Très rapidement, pour les gens qui ne sont pas dans ces régions-là et qui ont eu vent d'un souci, que ce soit sur un de leurs proches ou un autre, on peut contacter la KIS aussi.
Oui.
Est-ce que vous leur venez en aide?
Oui. C'est sûr que nous, on peut référer. On peut référer à l'association parce que c'est sûr qu'on entend... nos associations ont besoin également d'être outillées. Comment supporter ces personnes-là, comment les écouter, mais aussi les croire, parce que aussi il y a ça aussi. On croit pas beaucoup parce qu'on dit, bon, est-ce qu'on vient bien compris et tout ça, mais on peut pas passer sous silence quelque chose d'aussi grave que ça.
Madame Annick Larose, nous aurons l'occasion à cette saison de nous reparler.
Avec grand plaisir, je l'espère, pour
peut-être annoncer d'autres journées, parce que c'est important, c'est essentiel. Le travail que fait la KIS, je vous rappelle que vous êtes directrice de cette association du Québec pour l'intégration sociale.
Merci de l'invitation.
Mais je vous en prie, bonne journée, madame. Actualité canadienne maintenant, et cette nouvelle qui en fait frémir beaucoup et qui soulève l'indignation, aide à mourir et funérailles religieuses, la position d'évêques canadiens. Un document signé par 6 évêques de l'Ouest canadien qui invite leurs collègues à refuser les funérailles religieuses aux croyants qui font appel à l'aide médicale à mourir suscite de vives réactions au Québec. Leur position est débattue à la conférence des évêques catholiques du Canada qui se tient à Cornwall, en Ontario. Le Conseil pour la protection des malades est très critique face à cette proposition, considérant notamment l'ouverture dont fait preuve le pape François à l'égard des personnes autrefois exclues par l'Église. Alors, qu'est-ce qui est le plus indigne ou le moins respectueux des principes religieux? Traîner dans un CHSLD avec une couche pleine, s'étouffer à la fin avec ses vomissures ou demander respectueusement et dignement qu'on puisse terminer dans le confort, la sérénité, entouré de ses proches. Posons la question aux évêques, lance le président du conseil, Paul G. Brunet. Plus cinglant encore, le docteur Alain Nau dénonce une directive moyenâgeuse et accuse l'Église de prendre en otage les malades en phase terminale. Il déclare « Je suis totalement scandalisé par une telle position ». Humainement parlant, pour être un médecin qui est au chevet des malades, je n'arrive pas à comprendre cette position de l'Église. À Québec, pas question de refuser des funérailles religieuses à qui que ce soit, malgré la position de l'Église qui proscrit l'aide médicale à mourir. Le cardinal Lacroix a tenu ses propos. Je n'envisage pas de directive qui aurait pour but de refuser l'accompagnement ou l'accès au sacrement des malades, a-t-il déclaré. Très rapidement, il y a à Bali un village des sourds. Et à Bali, à ce village des sourds, eh bien, le silence est d'or. On voit par exemple des Balinaises en corsage doré qui dansent sur une musique traditionnelle devant un public assis par terre. Eh bien, ces Balinaises, elles sont sourdes et elles ont appris à danser en sentant le rythme de la musique dans leur corps, comme le font d'ailleurs la plupart des gens qui souffrent de surdité et qu'on peut voir, entre autres, dans des bars, en tout cas, et qui sont capables de danser. Mais outre la danse, basée sur ces percussions assez fortes qui leur permettent de sentir la musique, eh bien, les habitants ont développé leur propre langage des signes, le catacoloc, donc le langage des sourds, qui a été étudié par les scientifiques du monde entier. Ce n'est que dans les années 1960 que le village a commencé à faire des efforts pour mieux intégrer les sourds. Et aujourd'hui, tout le monde est traité de la même manière, affirme le chef du village, qui s'appelle Imade Arpana. Il y a même une école élémentaire qui accueille 77 enfants sourds et non sourds qui apprennent tous le langage des signes locales et suivent aussi une initiation au langage des signes international et indonésien. Et puis, rapidement, ce sera peut-être la plus longue chaîne humaine de bisous samedi à La Rochelle, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour sensibiliser la population aux troubles autistiques et délivrer un message positif à travers cette chaîne que l'association et la Jeune Chambre économique de La Rochelle donnent rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent sur le parvis de la Tour Saint-Nicolas. Évidemment, nous sommes un petit peu loin, mais je trouvais que c'était un événement qui méritait qu'on le souligne. En France, il y a 650 000 autistes et plus de 4 000 en Charente-Maritime, où va se dérouler cette énorme chaîne de bisous. Afin d'aider au financement de l'Arche de l'Abitibi-Témiscamingue, la pièce « Le souffle d'Eti Ilesom » sera présentée à Amos le 7 octobre. Interné au camp de concentration d'Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale, Eti Ilesom y est décédée en 1943. D'origine juive et hollandaise, elle avait tenu un journal intime dans lequel elle notait ses réflexions sur la souffrance, la vie et la mort. Ses écrits, qui ont été conservés, lui ont valu une notoriété mondiale. Alors, le sous-sol de l'église du Christ-Roi se transformera en salle de spectacle le temps d'un soir pour accueillir l'œuvre à compter de 19h30 le 7 octobre prochain. Voilà ce qui met un terme à l'émission Les Paractualités du jour. Merci à mon équipe Anne-Laure Janson et Jean-Sébastien Laliberté. Merci à vous d'être là. À demain, 11h30. Bonne journée.